France Culture.
La science CQFD, Antoine Beauchamp.
L'ONU a désigné l'année 2025 comme l'année internationale de préservation des glaciers. Parmi ceux-là, les glaciers de montagne sont particulièrement menacés. Comment anticiper les effets au long cours de leur disparition annoncée ? Une étude parue en février 2025 dans la revue Nature montre que les Alpes et les Pyrénées ont perdu 40% de leur masse glaciaire en moins de 25 ans. La rapidité de cette fonte est bien plus importante que celle de la fonte des calottes polaires. Devant cette disparition accélérée, les scientifiques sont dotés d'outils de mesure de plus en plus précis. Mais faut-il d'ores et déjà anticiper un monde sans glaciers de montagne et prévenir les conséquences de leur mort annoncée ? En d'autres termes, la bataille des glaciers de montagne est-elle déjà perdue ? Glaciers de montagne, espace en voie d'extinction. Denis Mercier, bonjour.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Professeur de géographie à Sorbonne Université, et vous êtes l'auteur de l'Atlas des glaciers, paru fin 2024 aux éditions Autrement. Nous sommes également en duplex depuis les studios d'ici Grenoble avec Antoine Rabatel. Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement de l'Université Grenoble-Alpes. Vous êtes le co-auteur du livre « Les voies des glaciers, récits de chagrin et d'espoir face au recul des glaciers tropicaux », coédité par l'IRD et l'UNESCO et qui paraîtra le 29 mai 2025. Un livre auquel vous avez également participé, Sophie Covifronier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écologue, chercheuse à l'INRAE, spécialiste de la biodiversité sur les glaciers et en particulier de la biodiversité des systèmes aquatiques. Bienvenue à tous les trois et bienvenue à vous qui nous écoutez. Vous pouvez comme chaque jour retrouver une bibliographie sélective des articles et des liens qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la Science CQFD mais aussi sur notre compte Blue Sky @science_CQFD. On va bien sûr parler aujourd'hui des enjeux nombreux liés aux recherches qui documentent la disparition des glaciers de montagne et qui évalue l'impact à court, moyen et long terme de cette disparition. Mais avant de détailler ces enjeux, il nous faut reposer certaines bases et faire un travail descriptif. Alors Denis Mercier, on va commencer par la base. Comment définir simplement ce qu'est un glacier de montagne ?
Alors un glacier de montagne, c'est une masse de neige qui s'est transformée au cours du temps en glace. Et il faut trois ingrédients pour cela. Le premier ingrédient, c'est d'abord que ce glacier soit nourri. Donc il faut de la neige, des précipitations neigeuses essentiellement pendant la période hivernale. Mais le deuxième ingrédient, c'est que la température de l'été qui va suivre et des étés qui vont suivre doivent rester suffisamment fraîches pour que cette neige ait le temps de se transformer en glace et donc elle ne fonde pas. Et le troisième ingrédient, il faut un bassin de réception pour que cette neige s'accumule, se tasse, se transforme, se métamorphose sans qu'elle disparaisse, sans qu'elle soit évacuée. Et le meilleur bassin de réception qu'on retrouve dans tous les massifs alpins du monde, y compris notamment le massif alpin européen, ce sont des vallées qui sont des dépressions allongées, encadrées par des versants qui font de l'ombre à ces vallées. Et puis l'autre espace de réception favorable, ce sont les cirques. Ce sont donc des dépressions qui sont, eux, encadrées par des grands versants, qui vont faire aussi de l'ombre, qui vont aussi, comme ils sont pentus, favoriser les avalanches. Et donc, l'accumulation de neige qui va avoir le temps de se transformer en glace.
Antoine Rabatel, un complément à apporter à cette définition ou est-ce qu'elle vous convient ? Et si oui, alors on peut passer à la suite, savoir comment on peut distinguer ces glaciers de montagne et d'autres types de glaciers qui sont nombreux. Alors on peut parler des Inlandsis, on peut parler des glaciers de calotte polaire. Quelles sont les grandes distinctions à faire ?
Ouais, juste un petit complément par rapport à la définition qu'a apporté Denis Mercier. C'est-à-dire que cette glace, elle n'est pas figée, elle n'est pas statique. Le glacier, c'est un objet qui se déforme, qui s'écoule. Donc, il y a ce qu'on appelle une dynamique. Et donc, les masses qui vont s'accumuler en altitude, comme ça a été évoqué par Denis, elles vont s'écouler vers des zones plus basses où, cette fois-ci, les conditions pour le maintien du glacier ne seront plus réunies. Et notamment, l'été, quand il fait chaud, on va observer à ces basses altitudes de la fonte. Et donc, la transformation de la glace en eau pour ensuite alimenter les cours d'eau notamment. Et effectivement, au-delà des, en dehors des glaciers de montagne ou des zones arctiques où on trouve tous ces glaciers, il y a les deux grandes calottes qui sont présentes sur Terre, donc à la fois au niveau du Groenland et au niveau de l'Antarctique. Les principes de formation et de fonctionnement, c'est les mêmes. Ce qui va les différencier, c'est essentiellement une histoire de taille. Et donc, pour mettre un petit peu en perspective les glaciers de montagne, alors si on rassemblait ensemble les à peu près 200 000 glaciers de montagne qu'on peut trouver partout sur Terre, ça ferait une surface de 700 000 km², donc un peu plus que le territoire français métropolitain. Et une échelle pour les comparer aux calottes, c'est ce qu'on appelle un équivalent en termes de niveau des mers. C'est-à-dire que l'ensemble de ces glaciers de montagne représente un stock d'eau. Si on le faisait fondre et si on le mettait directement dans la mer, ça entraînerait une élévation d'une trentaine de centimètres, 30-35 centimètres. Et donc, pour mettre en parallèle les calottes de glace, donc pour montrer à quel point ces objets sont beaucoup plus grands, immenses par rapport aux glaciers de montagne, le Groenland, si on le faisait fondre intégralement, ça représenterait une élévation de l'ordre de à peu près 6 à 7 mètres. Donc, on parle cette fois-ci en mètres et plus en centimètres. Et l'Antarctique, là, on parle encore d'un ordre de grandeur supérieur, de l'ordre de la soixantaine de mètres si on faisait fondre l'intégralité du volume de glace stocké en Antarctique. Donc, sur le plan des processus, c'est la même chose, les calottes, les glaciers, juste il y a une différence en termes d'échelle qui les caractérise.
Donc, ce qu'on comprend dans votre propos, Antoine Rabatel, c'est donc que ces glaciers de montagne correspondent à une proportion peut-être moindre du volume total de cette cryosphère, donc de cet ensemble des masses de glace, de neige, de sol gelé présentes sur Terre, mais qui sont tout de même, ça c'est quelque chose assez qu'il faut rappeler, Denis Mercier, c'est qu'ils sont assez courants en fait, on en trouve un nombre assez grand.
Oui, on en trouve un grand nombre à la surface de la planète, plus de 200 000 glaciers, mais 270 000 glaciers. Il y a une autre notion qui les distingue, c'est l'âge de ces glaciers. En fait, les glaciers, les grands Inland 6 de l'Antarctique sont présents depuis des millions d'années en Antarctique, mais la glace la plus vieille qu'on peut retrouver en Antarctique a un peu plus d'un million d'années. Le dernier forage nous permet de remonter à 1 200 000. Au Groenland, la glace est présente aussi depuis des millions d'années, mais la glace la plus vieille qu'on va retrouver, c'est finalement une glace qui a 130 000 ans, donc c'est beaucoup plus jeune. Et les glaciers de montagne, les glaciers alpins, notamment dans les vallées, ont quelques milliers d'années. Ce sont des survivants des périodes plus froides que la Terre a connues. Et ils sont pour la plupart d'entre eux mal placés sur l'échiquier climatique de la planète, à des latitudes moyennes. Ils ont occupé, si on prend le massif alpin européen, des extensions spatiales beaucoup plus grandes. Ils descendaient sur le Piémont lyonnais.
Le gros caillou à Lyon.
Le gros caillou à Lyon, exactement. Mais aujourd'hui, ce sont des survivants de cette période où il a fait beaucoup plus froid à la surface de la planète. Pour beaucoup, notamment ces glaciers de montagne, sont aujourd'hui très mal placés sur un échiquier climatique qui se réchauffe.
C'est ce qui fait que ces glaces polaires sont des parfaits témoins des paléoclimats et qu'on peut aller faire des relevés dans des temps très très anciens et comprendre l'évolution du climat, là où les glaciers de montagne sont finalement plus des témoins, et on va en parler de l'évolution climatique récente et actuelle. Sophie Covy-Fronnier, il y avait un élément qu'a soulevé Antoine Rabatel tout à l'heure, c'est l'aspect dynamique de ces glaciers de montagne. Ils ne sont pas statiques, ils évoluent, ils bougent. Comment on peut définir justement et décrire, si on devait faire une coupe un peu en tranches, la structure d'un glacier de montagne, ses différents espaces et comment tout ça se meut?
Oui, alors je pense pour le coup que c'est plutôt Antoine qui serait plus propice à répondre à ces questions.
Alors Antoine Rabatel sur ce plan en coupe des glaciers de montagne.
Ce plan coup, de manière un peu schématique, donc à l'amont, on va trouver ce qu'on appelle la zone d'accumulation, qui a été un peu décrite tout à l'heure par Denis, donc là où la neige s'accumule au fil des années, elle va progressivement se transformer en glace, et puis on est aux altitudes les plus élevées, et donc sous l'effet de son propre poids, cette glace va se déformer, et puis elle va aussi, suivant sa température, ce qu'on appelle le régime thermique, être capable de glisser sur le substrat rocheux qui va être donc sous le glacier, et donc s'écouler vers des altitudes les plus basses, où là on arrive dans ce qu'on appelle la zone d'ablation. Et en fait, ces deux termes, accumulation, ablation, elles nous permettent aussi de définir les processus qui se passent à la surface du glacier et de définir une variable qui nous intéresse, sur laquelle on reviendra peut-être tout à l'heure, qui est le bilan de masse, et qui nous permet de décrire quel est l'état de santé du glacier. Donc ce bilan de masse, il va faire finalement la différence entre la quantité de neige qui s'accumule sur le glacier pendant la période froide, la saison d'accumulation, l'hiver chez nous, sous les latitudes tempérées, et puis l'ablation, donc c'est-à-dire la perte de masse du glacier. Alors cette perte de masse, ça va être soit de la fonte, donc passage de l'état solide à l'état liquide, soit un autre processus qui s'appelle la sublimation, donc où, là où on passe directement à l'état gazeux sans transition par la phase liquide, et puis un autre processus de perte de masse pour les glaciers, ça peut être ce qu'on appelle le vélage, c'est-à-dire le fait qu'ils puissent perdre des blocs de glace, donc des icebergs, quand ils arrivent soit dans des lacs, soit au niveau de la mer, comme ça va être le cas des glaciers qu'on peut trouver aux très hautes latitudes, dans l'Arctique ou bien en Patagonie, par exemple, en Amérique du Sud.
Alors là, on parle de Patagonie, d'Arctique, on trouve des glaciers en Himalaya, on en trouve aussi dans les chaînes montagneuses d'Amérique latine, où vous vous trouvez, Sophie Covy-Fronnier. Quelles sont les différences qu'on peut établir entre ces glaciers de montagne? Est-ce qu'ils se comportent tous globalement de la même façon? Mais quelle peut être la différence entre un glacier de montagne des Alpes françaises et un glacier de montagne de ces cordillères d'Amérique latine?
Eh bien, en tout cas, en Amérique du Sud, dans la zone tropicale, on ne retrouve pas de glace avant 4008. Donc, la longue glacière arrive au niveau de 4000 d'altitude. Donc, ça veut dire qu'il faut que les montagnes montent jusqu'à 5000, 6000 pour qu'on ait un petit peu de glacier. Et le problème qu'on va avoir, c'est que on va avoir du coup dans ces glaciers très très peu de zones d'accumulation si on a des sommets qui montent seulement au niveau de 5000. Donc ces glaciers-là, ils vont être seulement en train de fondre et il va y avoir aucune accumulation pendant l'année. Et on a par exemple le dernier glacier du Venezuela qui est en train de disparaître ou qui a disparu ces mois-ci parce que finalement les montagnes ne sont pas assez hautes dans cette zone-là pour pouvoir avoir une zone d'accumulation suffisamment conséquente pour conserver les glaciers. Ce qui est en train aussi globalement d'arriver dans les Alpes, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez marquant ici.
Alors on comprend bien dans vos propos aux uns et aux autres que la notion d'équilibre et de déséquilibre va être cruciale pour comprendre l'évolution et la disparition des glaciers de montagne. On peut parler aussi, Sophie Covy-Fronnier, puisque c'est un de vos sujets d'étude, de la vie sur un glacier. Ce ne sont pas des espaces totalement inertes, il y a une biodiversité spécifique à ces glaciers de montagne. Quel type d'espèces on va retrouver par exemple dans ces milieux particuliers que sont ces glaciers ?
Oui, alors effectivement, l'idée générale un petit peu, c'est qu'il n'y a aucune vie sur les glaciers, que c'est une zone assez inerte, et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est surtout depuis 2012 qu'on a en réalité considéré les glaciers comme un écosystème à part entière. On a effectivement de la vie sur les glaciers. Alors c'est en grande majorité des communautés de micro-organismes, donc des organismes qui sont invisibles à l'œil nu. On a des bactéries, on a des levures, des algues, mais il y a également une faune. Donc, on a des micro-invertébrés, notamment donc des rotifères ou des tardigrades, mais on a aussi des invertébrés qui sont, eux, visibles à l'œil nu. Alors là, on peut citer des crustacés, des insectes, des annélides, des arachnides, et on a des espèces qui vivent exclusivement sur les glaciers. Ils ont vraiment besoin de cet habitat pour leur cycle de vie. Alors, ceux qui sont peut-être un peu plus connus, c'est un plécoptère, donc c'est un insecte qui s'appelle Andiperla wilinki. On l'appelle aussi le dragon de Patagonie. C'est un petit insecte de, on va dire, 1,5 cm, 2 cm, qui est très très noir, qu'on retrouve sur les glaciers patagoniens. On a le ver de glace en Amérique du Nord. Donc, on peut voir parfois certains glaciers. Alors, je dirais pas qu'ils sont complètement noirs, mais on retrouve quand même des densités très 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 fortes de ces vers. Et ce qui est assez intéressant, c'est que d'autres organismes plus gros, des oiseaux, consomment ces vers. Donc on a par exemple le rosenin à tête grise aux États-Unis qui ne vit pas exclusivement sous le glacier, mais en tout cas qui utilise quand même le glacier et qui se nourrit sur le glacier. On a une autre espèce qui est le diuca aux ailes blanches, là c'est au Pérou cette fois-ci, et c'est un autre oiseau qui ne vit pas exclusivement sur le glacier, mais qui utilise quand même le glacier comme habitat. On a retrouvé notamment des nids d'oiseaux dans les crevasses. Il y a vraiment une vie autour de ces glaciers et
dans les eaux, dans les eaux de ces glaciers. Aussi, vous êtes spécialiste des systèmes aquatiques, des glaciers de montagne. Alors, quelles ont de particulier ces eaux-là? Quelles sont les composantes qui les constituent et qui les distinguent, par exemple, d'une eau qu'on va retrouver en aval?
Oui, alors effectivement, juste avant, je voudrais préciser que donc on a l'écosystème glaciaire et on a aussi les écosystèmes aquatiques influencés par les glaciers qui nécessitent cette influence-là. Donc, les eaux glaciaires, que ce soit donc les rivières ou les lacs très, très proches des glaciers, sont caractérisés par des eaux très 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 froides, donc généralement moins de 4 degrés en moyenne sur l'année, très très proches du glacier. Elles sont turbides aussi, on n'a pas trop parlé de ça, mais effectivement quand Antoine expliquait que le glacier était en dynamique et qu'il y avait un flux de cette masse de glace le long de la montagne, en fait le glacier va râper la roche et ça va créer la farine glaciaire. Cette farine glaciaire, on va la retrouver après dans les eaux, ce qui fait que ce sont des eaux qui sont très très turbides, où la lumière ne passe pas trop. Donc il va y avoir très peu de production primaire, très peu d'algues, quasiment pas de plantes, et ça veut dire que toute la faune qu'on va retrouver dans ces écosystèmes-là, eh ben, ce sont une faune vraiment très typique, très adaptée à ces conditions extrêmes, qui sont des températures très froides, très très peu de matière, de production de matière organique, et également très avec une forte perturbation hydraulique, puisque hydraulique et hydrologique, puisqu'on va avoir des variabilités des débits qui sont très très fortes. Si on se place dans les Alpes notamment, on a pendant l'hiver très très peu de fonte du glacier puisqu'il fait froid, et l'été on va avoir une fonte bien plus élevée, et donc il faut s'imaginer que les organismes qui sont dans la rivière, ils vont vraiment vivre des augmentations du débit entre l'hiver et l'été qui sont multipliées selon les rivières, ça peut être
par des grosses proportions,
très très forte. Et donc, on a des espèces qui sont vraiment spécifiques dans ces rivières-là et qu'on retrouve exclusivement dans ces rivières-là ou dans ces lacs-là aussi.
Alors, on a planté le décor de cet environnement global que sont les glaciers de montagne. On va en venir, bien sûr, à présent aux questions scientifiques qui se posent autour de leur disparition.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
On poursuit notre émission consacrée aux glaciers de montagne avec vous, Sophie Covifronnier, Denis Mercier et Antoine Rabatel. On en arrive à présent à ce phénomène qui semble s'accélérer, de fonte des glaciers de montagne. Un phénomène de fonte qui est connu depuis plusieurs décennies. En témoigne cette archive du 6 février 1971, diffusée pour la première fois dans l'émission Les Samedis de France Culture.
Depuis la fin du 19e siècle, les glaciers sont en recul. C'est un fait certain. Les variations des 20 dernières années se soldent dans la majorité des cas par un recul marqué. Mais cependant, depuis 1955-1960, on constate que le nombre de glaciers en crue, qui ordinairement en France était de 10%, est passé vers 1965 à 18%. Depuis 1900 jusqu'à 1970, on a enregistré deux phases de crue importantes, outre celle que je viens de signaler dans les années très récentes. La première se situait vers 1920-1930. La seconde s'est placée entre 1938 et 1943. La troisième, celle que nous vivons, celle que nous avons pu constater aussi bien sur le glacier des Bossons que sur le glacier d'Argentière, se situe à peu près vers les années 1955-1960.
Voilà la voix de Robert Vivian, glaciologue à l'Institut de géographie alpine de Grenoble. Denis Mercier, voilà, cette évolution vers une perte et une disparition, c'est quelque chose qui est documenté, on l'entend dans cet archive de 1971, depuis un moment déjà.
Oui, tout à fait. Robert Vivian, qui avait fait une thèse magnifique sur les glaciers des Alpes en France, en témoignait déjà. Et on a une documentation très riche aussi chez les historiens avec les travaux d'Emmanuel Roy-Ladurie. Et cette période de glaciation où les glaciers alpins européens étaient très bien nourris pendant le petit âge glaciaire a pris fin vers 1850. Et depuis, on a documenté, c'est aussi le début de la glaciologie comme discipline scientifique au 19e siècle. La documentation et l'étude précise des glaciers, notamment des glaciers des Alpes européennes, qui donnent naissance à cette glaciologie, à cette étude précise, est très bien documentée, alors soit par des mesures directes dès le 19e siècle, par les premières photographies, les cartes, évidemment, et puis depuis, il y a aussi les bilans de masse des glaciers qui sont faits tous les ans au même endroit pour documenter avec précision ces bilans de masse des glaciers et le recul à la fois en longueur, mais le fait que les glaciers maigrissent, donc deviennent de moins en moins épais. Donc toutes ces mesures sont extrêmement bien documentées depuis longtemps. Et c'est ce que reflètent aussi les études récentes à l'échelle mondiale. Mais ça a d'abord commencé dans les Alpes.
Alors, Antoine Rabatel, Denis Mercier évoquait à l'instant ce qu'on appelle le bilan de masse annuel des glaciers de montagne. Est-ce qu'on peut préciser, est-ce que vous pouvez nous préciser, puisque vous nous en parliez un peu tout à l'heure déjà de ce bilan de masse, ce que ça recoupe et ce que ça implique comme définition, ce concept-là?
Oui, donc comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, le bilan de masse, donc c'est la somme finalement de ce qui s'accumule à la surface du glacier et de ce que le glacier va perdre. Et on le calcule en général à l'échelle de l'année. Alors au niveau national, on a ce qu'on appelle un service national d'observation des glaciers qui s'appelle Glacioclim, donc au sein duquel je travaille avec d'autres collègues de l'IGE et puis d'autres institutions à l'échelle nationale et internationale, puisqu'on fait aussi des mesures en dehors des glaciers de l'Hexagone, je dirais, dans les Andes, en particulier en Himalaya. Et donc classiquement, on fait des mesures sur un certain nombre de glaciers. Alors il y en a une demi-douzaine qui sont suivies dans les Alpes françaises, on pourra les lister si vous voulez, mais donc on va mesurer typiquement là, début mai, l'accumulation qui s'est produite pendant la saison d'hiver. Donc, puisqu'on est vraiment à la fin de cette période d'accumulation à haute altitude, où il y a les dernières chutes de neige qui vont contribuer à alimenter le glacier. Et donc là, on va faire des carottages dans l'épaisseur de la couche de neige qui s'est accumulée pendant l'hiver. Donc on va mesurer l'épaisseur, on va mesurer aussi la densité de cette neige pour la traduire en ce qu'on appelle un équivalent en eau, pardon. Et puis ensuite, on va mesurer au fur et à mesure du printemps, de l'été, comment cette neige fond, donc dans un premier temps. Et puis ensuite, là où la neige de l'hiver aura intégralement fondu, c'est-à-dire dans la partie basse du glacier, la zone d'ablation, on va mesurer aussi à quelle vitesse la glace du glacier va fondre. Donc c'est ces deux paramètres, accumulation et fonte, qui nous permettent de quantifier ce bilan de masse. Donc on le mesure chaque année, et puis on peut comme ça observer la variabilité interannuelle et puis son évolution sur des temps plus ou moins importants. Donc ces mesures de bilan de masse dans les Alpes, elles ont commencé après la Seconde Guerre mondiale, donc sur le glacier de Sarène en particulier en 1949, et puis elles se sont ensuite étendues à d'autres glaciers dans les différents massifs, le Mont Blanc, le massif de la Vanoise et le massif des Écrins, puis il y a également dans les Pyrénées.
J'aimerais à présent, Antoine Rabatel, qu'on évoque cette étude qui est parue dans Nature en février 2025, je l'évoquais en début de cette émission, une étude menée par ce qu'on appelle la GLAMB Team pour Glacier Mass Balance Intercomparison Exercise. Quels ont été finalement les principaux résultats de cette vaste étude concernant les glaciers de montagne, qu'est-ce que ça a pu nous permettre de comprendre, cette étude-là?
Alors cette étude, en fait, elle vient compléter tout un ensemble d'autres études préalables pour juste introduire un petit peu le travail qui a été fait dans le cadre de cette équipe internationale. Les mesures que j'ai évoquées précédemment, elles sont faites sur un nombre très réduit de glaciers à l'échelle internationale. C'est un peu plus d'une centaine de glaciers sur lesquels il y a ce type de mesure de terrain.
Ce qui, on le rappelle, est peu par rapport aux plus de 200 000 glaciers qu'on connaît.
Exactement. Oui. Donc c'est là où j'allais en venir. Donc par rapport à ces un peu plus de 200 000, ça représente un nombre infime. Et on peut se demander naturellement si ces mesures, elles sont représentatives de ce qui se passe sur l'ensemble des glaciers. Et donc en fait, depuis quelques décennies, et particulièrement depuis les années 2000, on a des capteurs satellites donc qui nous permettent d'avoir un suivi, cette fois-ci exhaustif, de l'ensemble des glaciers du monde, puisqu'ils acquièrent des images en continu de l'ensemble des glaciers de la planète, mais avec des résolutions et puis des précisions temporelles qui sont pas les mêmes. Et donc ce qu'on cherche à faire dans la communauté scientifique depuis plusieurs années, c'est à combiner à la fois ces mesures de terrain et ces observations satellitaires. Donc il y a différentes méthodes pour combiner ces deux types d'informations qui ont des caractéristiques spatiales et temporelles différentes. Et là, dans cette publication que vous avez évoquée, on a comparé un ensemble de méthodes géostatistiques, on va dire, donc qui permettent de combiner ces différentes observations de manière à pouvoir aboutir à la quantification la plus précise possible de l'évolution de la masse, donc de l'ensemble des glaciers à la surface de la Terre. Alors les résultats principaux de cette étude, c'est que à l'échelle globale, sur les 25 dernières années, grosso modo, depuis 2000, quoi, on a perdu 5% du volume total des glaciers. Mais cette perte, elle est très variable spatialement, hein, et d'une région à l'autre, elles sont plus ou moins importantes. Vous avez évoqué en introduction que pour l'Europe centrale, donc les glaciers des Alpes à l'échelle européenne, des Pyrénées, c'est presque 40%. Hein, donc vous voyez par
en moins de 25 ans.
Voilà, en moins de 25 ans. Donc vous voyez qu'on a une variabilité spatiale qui va être très forte. Donc on a en fait les glaciers des latitudes les plus basses, sous la région intertropicale, ou dans les latitudes tempérées de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud, où on enregistre en pourcentage les pertes les plus importantes, et puis les glaciers des plus hautes latitudes, que ce soit hémisphère nord ou hémisphère sud, où en proportion, en pourcentage, les pertes sont plutôt de l'ordre de 5 à 10 % en fonction des régions.
Et ces pertes se manifestent par exemple en France sur le glacier blanc dans le massif des Écrins par un recul en moyenne de 30 mètres de glace par an et certaines années beaucoup plus. Alors Sophie Cobie-Fronnier, j'aimerais comprendre les causes communes qui créent cette disparition des glaciers de montagne. Quels sont les coupables finalement dans ce recul inexorable des glaces de montagne?
Ah bah le gros coupable, c'est l'augmentation de la température.
Tout simplement. Et ne pas oublier aussi le manque de précipitations, parce que ça joue aussi dans tout ça, Denis Mercier.
Oui, parce que la température joue à la fois sur la fonte du glacier pendant l'été, ce qu'évoquait tout à l'heure Antoine Rabatel, c'est-à-dire que la fonte estivale va dépendre de la température du bassin et la transformation de la glace, de la neige. En eau liquide directement et qui va l'empêcher de se transformer en glace, ou la dilapidation directement de la glace. Mais la température joue aussi, et le réchauffement climatique contemporain joue sur la quantité de précipitations neigeuses, qui va être finalement l'ingrédient essentiel pour que le glacier puisse se développer ou se maintenir. Et donc s'il fait trop chaud, on va avoir plus de précipitations liquides et moins de neige. Et les précipitations liquides, évidemment, sont encore plus néfastes puisqu'elles vont lessiver la neige ou la glace directement. Et pour les régions les plus grands contributeurs de la fonte, alors ce sont les glaciers de l'Europe occidentale qui fondent le plus, c'est ce qu'Antoine Rabatel a signalé, mais les plus gros contributeurs vont se retrouver en Alaska, dans l'Arctique canadien, ou les glaciers qui sont placés en Arctique, comme les glaciers du Svalbard, parce que finalement, c'est dans le bassin arctique que l'augmentation des températures est la plus importante, de l'ordre de 3 à 4 degrés sur les dernières décennies, donc c'est 3 à 4 fois plus qu'à l'échelle mondiale, ce qui fait que il y a de moins en moins de neige, de plus en plus de pluie, de plus en plus de périodes de fonte. Et ça joue aussi sur la banquise qui va entraîner un réchauffement global de ce bassin arctique. Et donc cette amplification arctique, du fait de l'augmentation des températures, par boucle de rétroaction positive, joue aussi sur l'ensemble de la cryosphère, les glaciers, mais aussi la banquise ou la neige, tous ces ingrédients réunis font que les bilans de masse des glaciers sont déficitaires.
Antoine Rabatel, est-ce que vous souhaitiez compléter concernant ces causes du recul des massifs et des glaciers de montagne, ou bien est-ce qu'on peut déjà glisser dans ce que dit Denis Mercier, on envisage déjà les conséquences finalement de ce recul-là, parce qu'on imagine qu'elles sont nombreuses, alors quelles sont les principales conséquences de ce recul des glaciers de montagne?
Oui, alors si on veut parler des conséquences, il y a effectivement pas mal de choses à dire. Il y a d'une part les conséquences qu'on peut observer à l'échelle globale qui vont être liées à l'élévation du niveau des mers et qui va être en partie relié à la fonte des glaciers et aussi des deux grandes calottes qu'on a évoquées tout à l'heure, donc le Groenland, l'Antarctique. Alors c'est une des composantes, la contribution de la cryosphère. L'autre grande composante, c'est la dilatation thermique de l'océan, le fait que la température de l'océan augmente également, donc le volume va lui aussi avoir tendance à augmenter. Donc ce premier impact. Ensuite, on a des impacts qui vont être plutôt au niveau local, donc avec l'aspect ressources en eau, donc et fonctionnement des bassins versants, fonctionnement hydrologique des bassins versants dans lequel on va pouvoir trouver des glaciers. Et donc ça va impacter toutes les régions du monde dans lesquels on trouve des glaciers et où leur volume est en train de diminuer. Donc on a ce qu'on appelle une notion qui est le peak water, donc le moment où la contribution d'eau du glacier va commencer à décroître en lien avec la diminution de son volume. Et puis, on a aussi d'autres impacts en termes de risque. Donc, on n'a pas encore évoqué cette problématique, mais avec la diminution des glaciers, de leur surface, on a dans certaines régions, quand on a une topographie qui s'y prête, une vallée bien développée, la potentielle formation de lacs glaciaires qui peuvent être dangereux parce qu'ils sont retenus par des édifices moriniques, la plupart du temps, par des barrages qui ne sont pas nécessairement consolidés. Donc, si le volume devient trop important, on peut assister à des vidanges brutales de ces lacs. On en a un grand nombre qui se sont déjà produites et certaines très catastrophiques.
Ça crée des torrents, des catastrophes avec des torrents, finalement, comme des laves torrentielles, voilà.
Exactement, ouais. Et puis, on a aussi d'autres phénomènes qui peuvent être liés à la déstabilisation des parois. Donc, tout à l'heure, en tout début d'émission, Denis évoquait le fait qu'il y avait des glaciers qui se développaient dans des vallées ou dans des cirques et donc qui étaient entourés par des parois. Et quand le glacier diminue, il y a un effet de décompression qui peut se produire dans certaines de ces parois. D'autant plus si, au sein même de ces parois, on a une évolution du régime thermique avec ce qu'on appelle un dégel du pergélisol. Donc, le fait que ces parois, elles pouvaient être gelées en permanence et puis qu'avec le réchauffement des températures, elles sont aussi amenées à potentiellement se dégeler en surface. Donc, ça peut entraîner des glissements de terrain ou des écroulements massifs. Et puis, on a aussi, si on revient aux glaciers, certains glaciers, y compris dans nos massifs, dans les Alpes, qui sont des glaciers qu'on appelle froids. Donc, ça peut paraître un peu surprenant comme notion, mais la plupart des glaciers de montagne sont dits tempérés, c'est-à-dire que la glace, elle est grosso modo à température de point de fusion, à 0 degré, mais quand on va à très haute altitude, par exemple, dans le massif du Mont Blanc, on a de la glace froide. Par exemple, au sommet du Mont Blanc, la température de la glace, elle est de l'ordre de, on va dire, moins 12 à moins 15 degrés, à peu près, quoi. Et donc, quand la glace est froide, elle est collée au lit rocheux, et donc, le mouvement du glacier ne se fait que par déformation. Il n'y a pas cette composante de glissement que j'évoquais tout à l'heure. Pour avoir du glissement, il faut de la glace tempérée. Et donc, avec l'évolution des températures atmosphériques, on observe aussi un réchauffement de ces zones de glace froide et on peut s'attendre à des déstabilisations de glaciers. Et on en a vu quelques-unes aussi, notamment au Tibet, deux glaciers qui se sont complètement déstabilisés il y a à peu près une dizaine d'années. Et c'est des phénomènes auxquels on peut s'attendre. Il y avait eu aussi l'exemple de la Marmolada il y a 2-3 ans en arrière.
Et puis des exemples aussi de tsunamis dans des endroits où on n'imagine pas des tsunamis, Denis Mercier, au Svalbard par exemple.
Oui, alors surtout au Groenland ou en Alaska, ouais. Quand vous avez les glaciers donc se retirent, il y a une décompression post-glaciaire, donc les parois ne sont plus maintenues, si le pergélisol fond également, et donc ça génère des glissements de terrain qui peuvent tomber soit dans des lacs, mais parfois quand ce sont des glaciers alpins qui terminent dans des fjords, les parois s'écroulent et les volumes rocheux s'écroulent d'abord dans l'eau de mer et ça crée des vagues de tsunami. Et pour prendre un exemple très concret, dans le fjord de Karat, dans la partie ouest du Groenland, en juin 2017, il y a une de ces parois qui s'est écroulée et des vagues de 35 mètres de haut se sont propagées sur l'ensemble du fjord de Karat. Et à quelques kilomètres en aval, il y avait un village et 45 maisons ont été détruites, il y a eu des morts. Et donc on peut avoir comme ça cette combinaison de facteurs qui vont à la fois, pour des raisons thermiques, entraîner la fonte du glacier, mais en cascade, on va avoir des phénomènes qui peuvent poser des problèmes pour la sécurité des populations qui vivent ces régions glacées.
Qui vont concerner toutes les strates aussi de la vie de ces populations, puisque ça va concerner aussi l'accès à une certaine eau, pour l'agriculture, mais aussi une eau à consommer comme une eau potable. Il y a des risques, bien sûr, on l'évoquait. La réduction de l'eau aussi pour le refroidissement de certains sites nucléaires. Tout ça, finalement, crée un package. Et on va essayer de comprendre dans un instant, finalement, comment la science vient au chevet de ces glaciers de montagne pour essayer d'en sauver ce qu'on peut en sauver.
Thank you.
Glacier par Nick Cave and the Bad Seeds dans la science CQFD sur France Culture. Nous parlons aujourd'hui de la disparition des glaciers de montagne et de ses causes, de ses conséquences et des sciences qui documentent ce phénomène. Nous en parlons avec Denis Mercier, professeur de géographie à Sorbonne Université, avec Sophie Covy-Fronier, hydroécologue, chercheuse à l'INRAE, spécialiste de la biodiversité sur les glaciers, avec Antoine Rabatel, glaciologue à l'Institut des géosciences de l'environnement de l'Université Grenoble-Alpes. Après avoir parlé donc des causes et des conséquences de la fonte de ces glaciers de montagne, venons-en aux moyens scientifiques dont on dispose aujourd'hui pour surveiller et anticiper l'évolution de ces glaciers. Antoine Rabatel, vous avez déjà un petit peu évoqué cet aspect monitoring, comme si on mettait ces glaciers sous une observation permanente. En quoi ça consiste le monitoring d'un glacier de montagne dans les Alpes? Comment vous surveillez ces glaciers-là?
Oui, effectivement. Donc, on a un petit peu évoqué cet aspect monitoring tout à l'heure. Donc, j'ai évoqué le service d'observation Glacioclim, donc qui est l'outil français de la communauté française pour suivre l'évolution des glaciers. Ce qui nous intéresse, c'est à la fois de documenter les processus de surface, donc l'accumulation, la fonte, et puis de documenter la dynamique, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle le glacier s'écoule. Et donc, on a un ensemble de mesures de terrain sur des glaciers de référence qui sont suivis depuis plusieurs dizaines d'années. Et pour compléter ces observations de terrain qui sont finalement assez peu nombreuses, on utilise des produits satellitaires. Et de ce point de vue, on a d'une certaine manière la chance d'avoir de plus en plus de données qui sont disponibles, hein, puisqu'il y a un grand nombre de programmes d'observation de la Terre qui ont été mis en œuvre au cours des décennies précédentes. Et aujourd'hui, on a des capteurs aussi bien de l'Agence spatiale européenne ou de la NASA ou d'autres agences spatiales internationales qui nous permettent d'avoir un grand nombre d'informations. Et si je puis dire, aujourd'hui, on est confronté à des problématiques qui sont aussi liées au traitement de ces masses de données importantes. Hein. Par exemple, les images satellites, c'est des téraoctets d'images qui sont accessibles chaque année en plus. Donc, il faut développer aussi des outils pour traiter toute cette information. Et puis, une fois qu'on la traite, il faut aussi être capable de l'analyser. Et c'est deux choses différentes que d'analyser des informations sur quelques glaciers, que de les analyser sur des échelles de centaines, de milliers de glaciers. Quoi. Donc, voilà, il y a un grand nombre de travaux qui sont actuellement mis en œuvre pour essayer de mieux traiter ces données et de pouvoir aussi mieux les appréhender pour comprendre d'une certaine manière la variabilité à la fois spatiale et temporelle qu'on peut dégager de toutes ces observations.
Denis Mercier, on imagine aussi que la science propose à partir de ces observations in situ, mais aussi des observations satellitaires, des scénarios d'évolution, compte tenu de nos connaissances qu'on a sur l'évolution du climat, etc., pour ces glaciers. Alors, quelles sont les projections réalisées par les scientifiques aujourd'hui concernant la plupart des glaciers de montagne sur Terre?
Alors, les projections, on a évoqué la publication dans Nature de mars de 2025, où finalement on voit que ce sont les plus petits glaciers qui sont en première ligne face au réchauffement climatique. Donc ce sont ces petits glaciers en surface, ceux qui font moins de 15 km², qui sont le plus affectés par le réchauffement climatique. Et donc les projections, avec en fonction des températures qui sont et des scénarios du climat pour 2100, si on prend le scénario le plus pessimiste, qui est plus 4 degrés, mais c'est aussi ce que les hommes politiques en France demandent à la société française, ouais, de se préparer. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les objectifs de Paris, de la COP de Paris, sont déjà... on a l'impression que la bataille est perdue.
Un lointain souvenir.
Et donc, on envisage plus 4 degrés. Et donc, si on imagine à plus 4 degrés, les plus petits glaciers, il y en a 85% des petits glaciers de moins d'un kilomètre carré qui auront disparu à l'horizon 2100 parce qu'ils sont très mal placés. Ils n'ont pas de réserve spatiale. Ils n'ont pas suffisamment de volume pour pouvoir lutter face à ce réchauffement climatique. Et donc, tous les glaciers qui sont les plus petits, vous aviez évoqué tout à l'heure les Pyrénées. Ces glaciers des Pyrénées qui sont petits, mal placés sur l'échiquier, bas en altitude, à des latitudes moyennes, pas suffisamment alimentés par des précipitations neigeuses d'hiver, auront disparu d'ici 15 à 20 ans. Donc il restera toujours des glaciers à la surface de la planète, à l'horizon 2100 et pour les siècles et les milliers d'années encore à venir, mais pas forcément partout comme on peut les retrouver aujourd'hui. On en retrouvera dans les hautes latitudes, au Groenland, en Antarctique, mais ces glaciers petits des massifs alpins européens des latitudes moyennes où on évoquait les basses latitudes en Afrique, en Indonésie, dans les Andes, eux auront effectivement disparu. Et en termes de surveillance, je pense que ce qui est comme les glaciers reculent et qu'ils libèrent de l'eau liquide, le monitoring se fait évidemment aussi pour suivre les lacs proglaciaires, ceux qui se mettent en place au fur et à mesure que les glaciers disparaissent.
Ils sont assez nombreux.
Hein, ils sont nombreux, de plus en plus nombreux, et surtout en fonction des massifs alpins, dans les Andes, en Himalaya ou en Europe, vous avez des millions d'habitants qui vivent à proximité dans les vallées, à proximité de ces glaciers. Et donc il y a des enjeux de société. On évoquait les régimes thermiques, les régimes des fleuves qui vont être modifiés à l'avenir, puisque la fonte des glaciers va modifier le calendrier hydrologique de l'été. Donc pour beaucoup de régions, notamment en Asie centrale, le régime hydrologique des glaciers soutient l'agriculture pendant la période où elle en a le plus besoin, c'est-à-dire l'été. Et donc on va avoir des modifications de calendrier hydrologique avec aussi des problématiques sur les centrales hydroélectriques.
C'est-à-dire que pour l'instant, avec cette fonte des glaciers de montagne, Denis Mercier, on peut se dire bah en fait le débit d'été il est quand même accru, donc on va pas se plaindre. Mais le problème c'est que ces glaciers disparaissant, à un moment donné, le robinet sera coupé, pour le dire grossièrement.
Ils ne soutiendront plus les étiages d'été dans une grande partie de ces massifs. Évidemment, il pleuvra toujours, il y aura toujours des précipitations, mais le régime hydrologique sur lequel les sociétés se sont construites aura complètement été modifié à l'horizon 2030, 50 et 2080.
On comprend bien donc là que la disparition des glaciers de montagne va nous amener, nous, en tant que société humaine, à nous reconfigurer, à reconfigurer nos façons d'occuper ces espaces de montagne. Sophie Coyer-Fronnier, il y a aussi une dimension bien sûr liée à la biodiversité. On évoquait tout à l'heure cette biodiversité assez méconnue, en tout cas pas simple d'accès, de ces glaciers de montagne. Quelle va être la conséquence directe de cette disparition des glaciers de montagne sur cette biodiversité-là? Et quel phénomène assez étonnant d'écosystème émergent va se produire?
Oui, alors on a d'un côté la partie négative avec la disparition des glaciers et donc par conséquent la disparition de toutes les espèces qui sont endémiques aux glaciers, qui nécessitent l'habitat glacier pour survivre. Ensuite, on va avoir un effet sur les écosystèmes aquatiques, puisque, comme on l'a noté, on va avoir une diminution du débit pendant la période estivale. Alors, par exemple, pour donner un petit peu des chiffres, si on retourne sur les bassins versants des Alpes en France, à Sallanches, sur un bassin versant de environ 570 km², on a entre 50 et 60% du débit qui provient de la fonte des glaciers pendant la période estivale. Et ça va diminuer à 35-45% d'ici 2100. Pour un bassin versant plus petit comme Saint-Sorlin, de 60 km², on va passer de 40% en août à zéro dans les années 60. Donc ça va avoir un effet évidemment donc sur les usages des activités humaines, mais également sur tous les organismes qu'on peut retrouver dans la rivière. Donc on a des espèces, notamment des espèces d'insectes, qui sont vraiment dépendantes des conditions des glaciers, de l'influence glaciaire proche des glaciers, mais on a également des espèces un peu plus en aval qui nécessitent de l'eau froide pendant l'été, parce que non seulement on aura moins d'eau dans les bas des vallées de montagne, mais en plus elle sera beaucoup plus chaude. Et on a par exemple cette espèce d'éphémère Rhytrogena delphinensis, qui est une espèce qui est vraiment endémique du massif des Arbres, qu'on retrouvait il y a une trentaine d'années dans des rivières qui étaient approvisionnée par la fonte de neige, et cette espèce ne se retrouve plus dans cette rivière-là parce qu'en fait, les conditions de température sont beaucoup trop chaudes pour elle pendant la période estivale. Donc ça, c'est plutôt pour le côté évidemment négatif. Et il y a ce côté négatif qui est très très important.
Oui, qui est premier quand même, on ne peut pas se réjouir de la disparition des glaciers.
Notez également qu'on va avoir, en même temps que l'on va avoir une diminution de la superficie des glaciers, on va avoir une augmentation de la superficie d'écosystèmes terrestres alpins. Donc on estime entre 800 et 1600 km² selon les scénarios d'émission de gaz à effet de serre dans les Alpes. Donc ça veut dire que, alors ce ne sont pas des nouveaux écosystèmes dans le sens où on va avoir des nouvelles espèces, mais par contre on a 800 à 1600 km² supplémentaires qui vont apparaître d'écosystèmes terrestres et encore non impactés par les activités humaines. Si on repart sur les conditions, sur les écosystèmes aquatiques, pardon, dans les Alpes, ça va être entre 400 et 800 nouveaux lacs. Et ça, du coup, eh ben, ce sont 400 à 800 nouveaux lacs qui vont être des nouveaux habitats pour les organismes, les espèces alpines, aquatiques. Mmh. Et il y a eu des études assez similaires avec les rivières. On a en Alaska une étude qui a montré qu'on allait avoir 6000 km de plus de rivières qui va être pouvoir utilisées par le saumon du Pacifique, par exemple.
Donc là, on comprend bien toutes les difficultés qu'il y a non seulement à documenter, accompagner et comprendre ce recul des glaciers de montagne, mais aussi à anticiper cette protection de nouveaux espaces avec une biodiversité renouvelée dans ces espaces de glaciers de montagne. Et on pourrait continuer à en parler et faire une émission finalement sur ces écosystèmes émergent et toute la problématique et toutes les problématiques que ça recouvre. Mais pour élargir notre sujet, on doit évidemment à présent en venir au reportage du jour et on va faire un petit tour du côté du labo. Comprendre la vie des glaciers de montagne apporte des connaissances qui sont transposables à de nombreux glaciers dans le monde. Des glaciers parfois moins faciles d'accès que ceux de montagne et ceux proches de chez nous. On parle là par exemple des glaciers du Groenland. Pour le reportage du jour, nous sommes allés à l'Institut de physique du globe de Paris pour comprendre un mécanisme qui accélère la fonte des glaces en région polaire. Et c'est avec vous Céline Lozen. Bonjour Céline.
Bonjour Antoine. Oui, pour comprendre l'impact du vélage, c'est-à-dire le détachement des icebergs qui génère des tremblements glaciaires perceptibles à des centaines de kilomètres par des stations sismiques. Induit par le réchauffement climatique, ce phénomène de fait contribue au mécanisme de fonte que le professeur Jean-Paul Montagnier, appuyé des travaux de thèse d'Amandine Sergent, étudie au Groenland. Par des méthodes sismologiques couplées à des modélisations numériques, il montre ainsi comment on peut inférer la quantité de volume de perte de glace de la calotte polaire.
Ici, c'est le laboratoire de sismologie. Et donc, je vais vous faire voir. Toutes les stations maintenant sont connectées en temps réel. Et donc.
Donc là, on est connecté au Groenland, par exemple.
Alors, il y a une seule station au géoscope au Groenland. Pardon, je vais passer. Et là, on la voit à peine, là.
Ah, sur l'écran. Ça, alors là, on est dans un espace où il y a un écran qui cartographie toutes les stations.
Exactement. Donc là, vous avez toutes les stations Géoscope, donc le réseau global de surveillance de la Terre. Et donc, vous voyez qu'il y a notamment une station qui est juste en haut, à gauche, là. IVT, qui est une station au Groenland, qui fait partie du réseau global. Mais indépendamment de ça, au Groenland, il y a des réseaux de stations sismiques large bande qui surveillent toute l'activité du Groenland, dont je vous parlerai, des glacial earthquakes, tremblements de terre glaciaire, qu'on peut mesurer grâce aux ondes sismiques et qu'on peut aussi utiliser pour faire du monitoring de la calotte polaire groenlandaise. On a aussi des ondes sismiques qui sont émises et qu'on va pouvoir étudier pour essayer d'étudier le séisme glaciaire, sa cause et éventuellement l'amplitude de l'iceberg qui aurait cassé. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement utile. La découverte des tremblements de terre glaciaires, elle date de 2003 en gros, et elle a été faite par un Américain d'origine suédoise qui a, en étudiant de façon routinière tous les tremblements de terre, mais lui c'était surtout les séismes initialement, il s'est rendu compte qu'il y avait des séismes de magnitude non négligeable, magnitude 5, entre 5 et 5.5, qui pouvaient générer des ondes sismiques. Alors, moi, ce qui me paraît intéressant, c'est que de toute façon, en moyenne, le nombre de tremblements de terre glaciaires augmente énormément au cours du temps. Et donc, on s'est dit tout de suite, ça pourrait être un proxy du réchauffement climatique et de l'évolution de la calotte.
Un indicateur, vous voulez dire ?
Oui, un indicateur. Un indicateur du changement climatique et de l'effet du changement climatique sur la calotte groenlandaise.
Et donc de la fonte des glaces globales.
Alors nous, on est sismologues, donc on définit une magnitude. Et ensuite, ce qui nous intéresserait dans l'absolu, c'est de savoir est-ce qu'on peut relier cette magnitude à la quantité de glace qui a vélé, enfin, qui s'est détachée.
Alors par quelle relation, justement, en hydrodynamique ou en mécanique, on peut arriver à retrouver le volume et la masse ?
Les vrais spécialistes de ça, c'était moi, je suis plus sismologue, mais la personne qui s'est beaucoup intéressée à l'aspect hydromécanique, c'est Anne Mangenet, qui a mis au point des méthodes analytiques. Et avec une ancienne étudiante, Karen Larma, qui partait en postdoc à Caltech, on avait travaillé sur des méthodes qu'on appelle de renversement temporel, Donc, ont des méthodes qui ont été mises au point, notamment par Matthias Fink, pour localiser les tremblements de terre. Donc, on enregistre des tremblements de terre glaciaires et on les réinjecte numériquement. Évidemment, on ne peut pas le faire. Ça, c'est purement numérique, c'est des exercices numériques. On réinjecte les ondes dans la terre, enfin dans la terre virtuelle. Et on se rend compte qu'il y a un moment, toutes les ondes vont se mettre à focaliser à l'endroit de la source.
Une fois qu'on a pu identifier la source, comment ensuite on peut inférer du reste, c'est-à-dire, je ne sais pas, l'énergie du choc, du coup, la quantité
donc,
et
après,
la masse de glace.
On applique des méthodes de sismologie classique pour définir une magnitude, parce que la magnitude est liée à l'amplitude des signaux sismiques. Donc on a des théories qui nous permettent de relier l'amplitude des sismogrammes, donc les enregistrements des ondes sismiques, au moment sismique, qui est la quantité physique qui est associée à un tremblement de terre. Et donc, par inversion, ça s'appelle les méthodes d'inversion, donc on a une idée de la propagation des ondes et on a une relation linéaire entre les sismogrammes et le moment sismique. Ensuite, la deuxième étape qui est beaucoup plus compliquée, c'est comment relier cette estimation du moment dans les tremblements de terre glaciaires à la quantité de glace qui a rompu. Et c'est là, si vous voulez, où il faut faire des modèles mécaniques pour arriver à relier les processus de rupture aux enregistrements sismiques. Et donc, Amandine Sergent, cette étudiante-là, a fait un travail tout à fait remarquable où elle a montré comment on pouvait faire des modèles mécaniques. Mais c'est imparfait puisqu'elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas de solution unique. C'est ça qui est un peu décevant. C'est-à-dire que selon la façon dont un iceberg se forme, elle est arrivée à la conclusion qu'il pouvait y avoir deux solutions pour le volume. Donc, on n'est pas encore au stade où on est capable de relier de façon précise la masse de glace qui est mise en mouvement et la magnitude du tremblement de terre glaciaire. Donc, la sismologie environnementale, à travers les ondes sismiques des phénomènes naturels, devrait permettre d'apporter une quantification de certains phénomènes qu'on a du mal à évaluer quand on est simplement au-dessus de la Terre, et quand on n'a que les pieds sur Terre, et que là, par cette approche un peu différente, on peut espérer apporter vraiment de nouvelles contraintes sur l'évolution de la calotte groenlandaise.
Merci beaucoup Céline Lozen pour ce reportage. Je vous rappelle que vous pouvez désormais retrouver toute notre collection de reportages dans le podcast La Science au Labo, sur l'appli Radio France bien sûr, mais aussi sur la page de La Science au Labo, sur le site de France Culture, franceculture.fr. Une réaction peut-être à ce qu'on vient d'entendre dans ce reportage, Antoine Rabatel. J'ai l'impression que quand on documente les glaciers, quels qu'ils soient, où qu'ils soient dans le monde, on ne documente qu'une irrémédiable perte. Alors donnez-nous un petit peu d'espoir et rappelez-nous en fait aussi l'importance de souligner que chaque dixième de réchauffement climatique en moins compte dans la survie et dans la pérennité de ces glaciers de montagne qui sont très nettement menacés.
Oui, là vous évoquez donc les simulations de leur évolution future et ce que montrent toutes les études qui regardent cet aspect de la question, c'est que suivant les scénarios qu'on considère scénarios d'élévation future des températures, on n'a évidemment pas la même quantité de glace qui est perdue à la fin du siècle. Et dans le cas des scénarios les plus optimistes, donc ceux qui seraient finalement en accord avec les accords de Paris d'il y a une dizaine d'années maintenant, on aurait une stabilisation de la perte de masse, notamment pour les glaciers des moyennes latitudes ou des basses latitudes de la région intertropicale, dans la deuxième moitié du siècle en cours. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a une marge de manœuvre. Alors elle demande un travail colossal depuis l'échelle individuelle jusqu'à l'échelle collective, nationale et internationale, collective, effectivement, et donc un engagement politique qui soit très fort, et malheureusement on n'en voit pas encore totalement la couleur, même s'il y a des intentions qui sont très bonnes, ça tarde à se manifester par des actions, et c'est en partie pour ça qu'il y a cette année internationale de préservation des glaciers qui a été mise en place par l'UNESCO, parce que effectivement chaque dixième de degré compte. Alors si on veut donner un exemple un peu précis en termes de perte de volume, entre un scénario donc on va dire optimiste qui traduirait les accords de Paris, donc un réchauffement de l'ordre de 1,5 à 2 degrés à l'échelle globale à la fin fin du siècle, on aurait une perte de volume total des glaciers de montagne qui serait de l'ordre de 25%, alors que dans un scénario à plus 4 degrés, comme c'était évoqué tout à l'heure avec Denis, on aurait une perte de volume à l'échelle globale qui serait de l'ordre de 46 à 50%. Alors évidemment, d'une région à l'autre, c'est variable, mais là, je donne des ordres de grandeur à l'échelle globale. Donc on voit bien qu'on va du simple au double en fonction du scénario qu'on considère. Et donc, on peut essayer d'avoir un espoir en considérant que plus on va aller vers un scénario qui sera avec une élévation des températures la moins importante possible, plus on sera capable de garder, si je puis dire, une proportion importante de nos glaciers.
Bien, merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'être venus nous éclairer sur les enjeux liés à la disparition de ces glaciers de montagne. Je vous remercie Sophie Couvillier-Fronnier, Denis Mercier, Antoine Rabatel. Merci aux équipes d'ici Grenoble qui vous accueillaient, Antoine Rabatel, pour le duplex. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver Alexandra Delbo qui s'en vient avec sa chronique Avec Science. Aujourd'hui, Alexandra, vous enfilez votre bonnet d'alchimiste.
Comment transformer du plomb en or? C'est un vieux rêve d'alchimiste nommé Chrysopée, l'art de faire de l'or par transmutation. Au XIVe siècle, époque du célèbre alchimiste et surtout homme d'affaires Nicolas Flamel, ce processus faisait appel à des croyances diverses et mystiques autour de prétendues vertus d'une pierre philosophale ou de son élixir. De nos jours, il n'est plus question ni de Chrysopée, ni de pouvoir magique, mais de transmutation nucléaire avec des accélérateurs de particules. Et c'est ce qui a été fait au LHC, le grand collisionneur de Hadron du CERN. John Jouett est physicien des accélérateurs, ancien responsable du programme Ion Lourd au LHC et maintenant membre de la collaboration ALICE.
L'expérience ALICE, c'est une des quatre grandes expériences qui sont installées au LHC et qui gardent les collisions des particules que nous créons dans le LHC. La plupart du temps, c'est les protons pour le programme de la physique des particules élémentaires. Mais pendant quelques semaines par année, nous avons les collisions des ions lourds, c'est-à-dire les noyaux d'atomes, principalement des noyaux de plomb. Dans ces collisions de plomb, quand ils sont des collisions directes entre les noyaux, on crée la substance primordiale qui existait dans les premiers microsecondes de l'univers. Mais dans d'autres collisions où les ions ne se heurtent pas directement, ils passent très proches l'un de l'autre, il y a des interactions des champs électromagnétiques, c'est-à-dire des photons, qui peuvent provoquer un grand nombre d'autres effets intéressants.
L'objectif du CERN dans ses programmes de collision d'ions lourds est d'étudier un amas de particules élémentaires, une sorte de soupe primordiale qui a existé dans les premières microsecondes de l'univers. Mais lorsque la collision de ces noyaux de plomb n'est pas frontale, elle peut créer d'autres éléments chimiques, et notamment de l'or. Parce que ce qui distingue le plomb de l'or, ce ne sont finalement que quelques particules. En l'occurrence, trois protons et quelques neutrons. Grâce à des quasi-collisions de faisceaux de plomb, on peut arracher ces quelques particules et transformer l'élément chimique, en l'occurrence du plomb, en or. La collaboration ALICE est parvenue à mesurer ces événements, chaque arrachement de protons, pour déterminer quelle quantité d'or est produite au fil des expériences. Les résultats sont publiés dans une nouvelle étude parue dans Physical Review Journals, mais je vous le dis d'emblée, il n'est pas question d'en faire des bijoux.
Le taux de production d'or, de noyaux d'or, est de 89 000 par seconde. Donc c'est beaucoup et c'est assez impressionnant par rapport aux autres expériences du passé qui ont réussi à créer seulement des milliers de noyaux. Depuis le début des opérations du LHC en 2010, on a créé à peu près 200 milliards de noyaux d'or. Mais quand même, c'est très très peu sur l'échelle humaine. En termes de poids, ça fait un dixième de milliardième d'un gramme seulement. Ce n'est pas vraiment décrit dans le papier publié, mais nous savons comme les noyaux d'or, ils émergent de la collision avec une très haute énergie. Ils sont perdus et ils entrent en collision avec les parois du tube de faisceau du LHC. Et là, ils fragmentent dans d'autres particules, les protons, neutrons et autres. Et donc, leur durée de vie est d'un microseconde, peut-être 10 ou 100 microsecondes selon les conditions.
Alors évidemment, l'enjeu n'est pas réellement de créer de l'or pour créer de l'or. Compter ces événements permet de tester les modèles et de mieux comprendre comment les protons s'arrachent. C'est intéressant d'un point de vue scientifique, pour la pure connaissance, mais aussi utile d'un point de vue technique, parce que ces collisions et les noyaux d'or qu'elles produisent finissent par cogner contre les parois du tube et ces produits secondaires réchauffent les aimants de l'accélérateur. Or, ces aimants de plusieurs mètres de long doivent être refroidis à moins de 171 degrés pour correctement diriger les faisceaux de particules. Donc en comprenant mieux ces réactions, on peut anticiper les échauffements et éviter d'abîmer le LHC.
Merci beaucoup Alexandra Delbon, on vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science. Un grand merci à toute l'équipe de la Science CQFD, Lou Anger, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Ali Ruyère-Thompson, Eve Etienne, Loïc Dutoit, Alexandre Morales, Natacha Triou, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui c'était Grégory Wallon. Vous pouvez nous réécouter sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt dans la Science CQFD et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.